propose, si Madame Lerat, qui je crois substitue Madame Coutor, s'il n'y voit pas d'inconvénient, si vous n'avez pas d'obligation, Madame, j'aurais tendance à proposer que Monsieur Lager succède immédiatement à Monsieur Veve, parce qu'on traitera ensuite des questions de dématérialisation, aussi bien du contrôle d'égalité ou des procédures comptables. Vous n'y voyez pas d'inconvénient ? Bon. Donc je passe la parole à Monsieur Marc Lager, chef du pôle numérique des territoires à la DATAR, qui aujourd'hui signifie délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
Votre proposition. Alors, j'ai toujours beaucoup de difficultés avec les technologies d'information et de la communication. Votre proposition est tout à fait contraire aux règles de la galanterie française. Je suis infiniment désolé, madame. Mais si la logique de l'emporter, puisque effectivement nos exposés sont assez complémentaires, je veux bien faire cette entorse. Alors, je vais me lever parce que je souhaite que pouvoir mieux commenter ces diapositives que j'ai préparées. Je suis assez réjoui de votre exposé, monsieur, parce que vous avez eu l'élégance de prendre la position de la puissance publique pour réfléchir à la posture qu'un opérateur de télécommunication ou à la posture que les opérateurs de télécommunication pouvaient adopter. Je vais, quant à moi, essayer de faire l'exercice inverse, c'est-à-dire en tant que représentant de la puissance publique, voir quelles sont les conditions que la puissance publique doit respecter pour pouvoir aller dans le sens de l'aménagement des territoires en complémentarité avec les efforts des opérateurs. Alors, très rapidement, quelques éléments de définition. Vous m'avez demandé d'intervenir sur la question du développement numérique des territoires. Comment le définir, ce développement ? On a aujourd'hui, vous le savez, des activités numériques qui touchent, ou plutôt des actions et des éléments de métiers numériques qui touchent absolument tous les secteurs d'activité. Lorsqu'on prend sa commande au restaurant, ça se fait sur un terminal mobile qui lance directement la commande, produit la facturation, etc. Dans tous les métiers, l'assurance, la banque, le transport, on se sert du numérique. Et lorsqu'on parle de développement numérique aujourd'hui, je crois que ce sont tous ces éléments qui sont concernés. Ensuite, on a quelque chose d'un peu plus réduit qui est la façon dont les différentes entreprises s'approprient, et notamment sur un territoire, chaque métier numérique. Et puis, de façon plus restreinte encore, ce qui concerne la filière numérique, c'est-à-dire les gens qui produisent des matériels, des logiciels, des applications, des contenus et des télécommunications. Aujourd'hui, cette filière et ces métiers du numérique concernent à peu près 7% de la production nationale brute, c'est pas rien. Et dans le domaine des télécommunications, c'est 13 milliards d'euros depuis plusieurs années. C'est un chiffre qui est à peu près stable. Alors, au-delà de ces définitions, quels sont les enjeux et perspectives ? Si on s'attache à la question des territoires et du développement numérique des territoires, on s'aperçoit qu'il y a très rapidement quelque chose d'essentiel, c'est la présence des réseaux, j'y reviendrai, et donc mon exposé sera plus orienté sur la question de l'aménagement numérique des territoires, mis dans la perspective de leur développement, hein, l'aménagement comme une condition du développement. Dans ce contexte, le rôle de la DATAR, il est un petit peu schizophrène, c'est-à-dire que on a d'un côté la nécessité de pouvoir agir de façon très concrète et en particulier en appui des collectivités en relation avec les opérateurs pour déployer des réseaux à haut débit ou à très haut débit dans les meilleures conditions de délai et de coût. Mais de notre côté, et c'est le métier de la DATAR, on se pose des questions sur le long terme, en termes de prospective, comment chaque territoire va-t-il pouvoir mobiliser de la façon la plus efficiente possible la bande passante qu'on aura à développer sur sa surface. Alors, petit point actuel, mon intervention en tant que service du Premier ministre, elle est un petit peu délicate, puisque on est dans une période de suspension entre deux gouvernements, donc je ne pourrai ni commenter qualitativement les opérations qui ont été menées par le précédent gouvernement, et je le représente à cet égard, ni non plus présupposer des décisions qui vont être prises par le nouveau gouvernement. Donc je vais m'attacher surtout à l'analyse des rouages et des éléments, on va dire, qualitatifs qui déterminent l'aménagement et le développement numérique des territoires. En analysant trois fondamentaux de la gouvernance et du droit, l'analyse des besoins, le développement de la régulation et la nécessité de la péréquation. Élément de contexte, et je vous remercie monsieur si je suis trop long de me faire signe à peu près à mi-parcours, hein, 12-15 minutes, comme ça je régulerai moi-même mon intervention. Il faut voir, ce petit schéma montre ce qui s'est passé sur les derniers millénaires. On a une utilisation dans la production de valeur ajoutée de plus en plus faible de la matière. La matière était l'essentiel de l'intrant économique, du calcolithique. Et puis, progressivement, l'énergie a pris le pas sur la matière. Aujourd'hui, l'énergie est un facteur de développement qui s'abaisse au profit de l'information, et en particulier de l'information dématérialisée. Et je ne serai pas trop long, mais c'est bien parce que l'information a des caractéristiques très différentes de l'énergie de la matière, en particulier une faible empreinte carbone, parce qu'on arrive à produire et à organiser le développement de métiers et de création de valeur avec très peu de consommation d'énergie ou de matière, et aussi une rupture sur la question de la propriété. C'est-à-dire que la matière ou l'énergie se partagent très difficilement, tandis que l'information se partage très facilement, et c'est un nouvel avènement, enfin, comment dire, un paradigme économique nouveau qui apparaît, très différent de celui de la rareté. Ce qu'on voit se développer aujourd'hui, c'est une évolution du besoin de services tous azimuts. Dans le domaine public, la e-santé, la e-éducation, l'e-administration sont des domaines où, on l'a entendu tout à l'heure, l'administration publique fait des investissements très importants, mais évidemment les privés continuent de développer leurs activités. Le commerce en ligne est celui qui continue de croître avec des chiffres supérieurs, enfin à deux, des nombres à deux chiffres, hein, plus de 10%. Les loisirs numériques et l'émergence du web 2.0, bientôt 3.0, c'est-à-dire l'internet des objets, génèrent un besoin de bande passante qui est spécifique, parce que on a besoin de faire partir de l'information du terrain et du territoire vers internet, alors que dans la précédente construction numérique, le territoire allait chercher des informations vers le centre, vers le producteur de données. Et le réseau ADSL, Asymmetric Digital Subscribe Line, était tout à fait adapté à cela. Aujourd'hui, il faut construire un nouveau réseau. On va y revenir. Les besoins professionnels d'hébergement et de calcul sont importants. Alors là, je vais prendre un tout petit peu la main, parce que il y a une petite astuce. Et alors, tant qu'on l'a pas un petit peu... Voilà. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, juste sortir du PDF, voilà, de telle sorte que je puisse revenir sur ça. Si on regarde ce que ça signifie, voilà un petit applicatif qui permet de savoir comment évoluent les besoins. À part que j'ai un problème de définition, donc je vais considérer qu'on est sur un type d'usage relativement simple. Comment est-ce que je peux descendre ça? Ça va pas être possible. Bon, je vais choisir l'efficacité. J'aurais dû essayer auparavant. Et revenir à mon PowerPoint, où je devrais avoir peut-être, voilà, une diapositive qui représente à peu près ce que je voulais vous indiquer. Voilà. Vous avez, ça ne sera pas dynamique, hein, ça sera statique comme présentation, mais si vous avez à gauche l'ensemble des technologies auxquelles on peut accéder, qui sont classées par ordre croissant du haut vers le bas de débit et de capacité, avec des capacités indiquées de façon montante à gauche et descendante à droite, ou plutôt descendante à gauche et montante à droite, et que vous regardez les différents types d'usages, eh bien, vous pouvez essayer d'identifier la fracture numérique. Aujourd'hui, quand vous échangez un fichier de 8 mégaoctets, c'est-à-dire quelques photos avec votre famille, eh bien, ici, on a le temps, en bas à droite, en 0,06 secondes, la fibre jusqu'à l'habitant et la fibre jusqu'au quartier avec du DSL derrière, elle a fait le job. Quand on utilise de la fibre jusqu'au quartier, du CPL, du WiMAX ou de l'ADSL de plus, c'est en train de se faire, ça va se faire. Si on a d'autres technologies, c'est déjà plus incertain, peut-être que la requête va échouer, on va avoir une difficulté. Si vous faites exactement la même opération avec un fichier 100 fois plus gros, c'est-à-dire une vidéo de formation, par exemple, pour parler d'un service public, hein, la formation en ligne, eh bien, la fracture numérique aura un visage tout à fait différent. C'est-à-dire que soit vous avez la fibre jusqu'à l'habitant, jusque chez vous, jusqu'au bureau, ou jusque à proximité du bâtiment, et ça va fonctionner, soit vous ne l'avez pas, et vous serez un oublié du numérique. On peut passer à la diapo suivante, parce que Ça signifie qu'il nous faut construire un nouveau réseau, un réseau de nouvelle génération, ce qui n'était pas le cas pour la précédente utilisation d'Internet qui utilisait la DSL, c'est-à-dire le réseau téléphonique existant avec 96% de sa bande passante disponible pour autre chose que de la voix et du téléphone. Donc on voit sur ce schéma qu'en fait, il faut reconstruire un réseau jusqu'au point PRDM, au point de mutualisation. En amont, sur la droite, chaque opérateur construit son réseau. En aval, on y reviendra, on essaye de construire un réseau partagé. Merci de poursuivre. Voilà, ça va jusque chez l'habitant, c'est-à-dire que les coûts d'intervention ont été chiffrés par la DATAR à environ 30 milliards d'euros. Hein, vous disiez quelques milliards, non, c'est quelques dizaines de milliards d'euros qui sont concernés. Et donc, dans cette période de crise budgétaire, on ne va pas les sortir sans trouver des motivations fortes de la part de tous les acteurs. Alors, voilà quels sont les fondamentaux que je peux vous présenter après cette présentation globale des enjeux. L'expression des besoins. Au niveau local, merci de poursuivre, au niveau local, les élus se rendent compte que, parce que la DSL, c'est le graphique du milieu en bas, n'a pas une portée supérieure à 3,5 km, eh bien, autour des taches rouges qui est en bas à droite, on n'a pas accès à Internet. Et donc, les élus voient très bien défiler au cours de leur permanence les agriculteurs, les artisans et les habitants qui disent « Mais attendez, moi je vais en ville comme tout le monde, je vois des 4x3 sur le très haut débit, mais moi j'ai rien. » Donc, forte demande des territoires pour résorber ces zones blanches dont vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, du haut débit, et puis, aussi rapidement que possible, aller vers le très haut débit. Puisqu'il s'agit de mentionner quel est le rôle de l'État dans toutes ces actions, je souligne le rôle des chargés de mission TIC des préfectures de région, donc ils sont 26 en France, et ils sont les interlocuteurs naturels des élus et des professionnels pour essayer de mieux connaître la réglementation, de monter des projets, d'élaborer des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique et de qualifier l'ensemble de ces besoins. Ces schémas directeurs territoriaux ont une fonction essentielle parce qu'ils permettent, en rassemblant tous les acteurs concernés sur un territoire, de qualifier une problématique, une demande et une feuille de route pour développer des solutions. Si j'exprime cette demande et ce besoin au niveau national, il s'agit pour l'État français d'assurer une couverture exhaustive de la population en très haut débit fixe et mobile avant 2022. Au sortir des assises des territoires ruraux de février 2010, le président de la République, M. Sarkozy, avait annoncé ce qui était assez, on va dire, nouveau. Même pour les promoteurs de ces solutions, c'était nouveau. Assurer une couverture exhaustive à l'horizon 2025. Depuis, l'Association des maires ruraux de France, lors d'une enquête, a montré que le premier élément dont les maires ruraux avaient besoin, c'était pas des écoles, enfin, on a besoin d'écoles, mais le premier élément, c'était pas l'éducation, c'était pas la santé, c'était l'accès au très haut débit. C'est identifié comme un élément très important. Donc, vous avez cette carte qui montre que si on couvre 50% de la population en France, eh bien, ce sont uniquement les taches noires des zones urbaines qui sont desservies. 70%, les objectifs des opérateurs sont à cheval entre les deux, c'est les taches rouges autour, et donc, pour la puissance publique, c'est tout ce qui est jaune qui est orange, qui doit être couvert. Donc, un énorme chantier. Merci. Si j'établis l'énoncé du besoin au niveau européen, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est l'agenda numérique 2020, qui montre bien qu'on n'est pas, qu'il faut sortir de cette vision purement télécom de l'équipement du territoire et qu'il faut avoir une gouvernance globale qui intègre les aspects liés aux infrastructures de télécommunications, certes, mais aussi les services et contenus qui vont être déployés, mais aussi la formation des utilisateurs et des agents, mais aussi la lutte contre la cybercriminalité, mais aussi la confiance pour les échanges en ligne, etc. L'Europe traduit ce besoin et cette attente aujourd'hui par ce qu'on appelle les critères de conditionnalité pour accéder aux fonds européens sur la période 2014-2020. En clair, si la France, comme les autres pays, veut pouvoir mobiliser des fonds européens sur ses projets de couverture de télécommunications, il faudra qu'elle montre qu'elle respecte ces critères de conditionnalité et qu'elle a adopté une vision, une gouvernance et une pratique systémique du numérique sur les territoires. Alors, je passe au deuxième paragraphe, les rouages de la régulation, oui, c'est ça. Avec, pour l'Europe, je reste sur cette dimension, les lignes directrices européennes du 31 juillet 2009, qui sont construites, alors là aussi, c'est un texte fleuve, hein, avec 75 articles, mais il s'agit de tirer le meilleur parti de la concurrence, donc des capacités d'investir qu'ont les opérateurs privés. Pour cela, de circonscrire les initiatives publiques sur les zones où les opérateurs privés ne développeront pas leurs projets, ce qui leur permet d'avoir une lisibilité de leurs conditions d'investissement et qu'ils n'investissent pas sans un modèle économique où la rentabilité fasse l'objet d'une prévision présentable aux actionnaires. Pour le niveau national, on a quatre lois pour l'aménagement numérique des territoires. Alors vous m'avez facilité la tâche un peu, monsieur, tout à l'heure. Je ne reviendrai pas sur la loi pour la confiance en l'économie numérique et l'article 1425.1. Vous l'avez bien présenté en détail. La loi de modernisation de l'économie de août 2008 oblige les opérateurs à partager le fibrage des immeubles de plus de 12 logements et à diffuser l'information relative à leur réseau. J'y reviendrai. La loi de décembre 2009, dite loi Penta, de lutte contre la fracture numérique, a essentiellement produit, parce que ça concernait aussi la TNT et la téléphonie mobile, mais pour nous, a produit les schémas directeurs territoriaux, déjà avancés par une circulaire Premier ministre de 2009, et le fonds d'aménagement numérique des territoires, c'est-à-dire l'outil qui permettra de financer les efforts collectifs, j'y reviendrai, et... Dernièrement, 14 février 2012, une petite loi donc votée par le Sénat pour l'aménagement numérique des territoires, présentée par les sénateurs Maurey et Leroy. Il s'agit de redonner plus d'envergure aux initiatives publiques, de favoriser la couverture mobile et une couverture de qualité, et d'aborder ce fonds d'aménagement numérique des territoires. Alors, je vous laisserai le document qui pourra être accessible aux participants à cette rencontre et aux élèves. Je ne vais donc pas trop détailler, mais l'État, et en particulier de façon interministérielle, a produit un certain nombre de textes qui permettent aux opérateurs d'organiser leur coopération. Le décret connaissance des réseaux a été l'objet d'une bataille juridique importante. Elle a duré 3 ans et demi entre la Fédération française des télécommunications et les représentants des territoires que sont les collectivités. Depuis le 18 avril de cette année, puisque ça dure depuis le 8 août 2008, ou le 4 août 2008, pardon, et le 18 avril 2012, nous avons un texte qui fait la part des choses, ne contente pas tout le monde, mais enfin permet d'avancer, chaque collectivité ayant la capacité de connaître quels sont les réseaux des opérateurs et comment ils vont se déployer en respectant les critères de confidentialité nécessaires. La circulaire Premier ministre du 16 août 2011 prévoit comment impliquer tous les services de l'État et surtout... organise la négociation de cette ligne de partage que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur Veve, entre les projets des opérateurs privés et ceux des acteurs publics. Et ce texte dispose notamment de la création d'une commission consultative régionale présidée par le préfet et qui permet aux opérateurs et aux collectivités de se rencontrer pour savoir comment ils vont fonctionner ensemble, parce que les opérateurs ont besoin des collectivités. Elles connaissent leur sous-sol et peuvent mettre à disposition des plans. Elles vont financer des réseaux qui seront ensuite utilisés par les opérateurs. Mais à l'inverse, les collectivités ont absolument besoin des opérateurs qui sont les seuls à pouvoir mettre en place un système d'information pour transférer des milliards de milliards de paquets de données entre des utilisateurs. C'est pas le métier des collectivités. Les opérateurs mettent pas mal d'argent sur ces opérations. Les opérateurs sont capables de faire basculer une population qui est sur 512 kilobits ou 2 mégabits vers le très haut débit. Bref. Collectivités et opérateurs sont obligatoirement solidaires dans cette aventure, même si les affrontements ont existé. Alors, on va passer cette diapo, vous pourrez la consulter plus tard, mais j'insiste sur celle-là. Vous en avez parlé, monsieur. L'ARCEP a produit un cadre réglementaire très détaillé, qui a fait l'objet de discussions très soutenues avec tous les partenaires. Et l'essentiel de ce cadre réglementaire vise à mutualiser, je l'ai déjà un petit peu indiqué, mais à mutualiser... la portion du réseau très haut débit. Vous voyez sur le schéma du haut, c'est celui du haut débit. Chacun des réseaux des opérateurs va jusque vers l'immeuble. Dans le schéma du bas, on est sur le très haut débit et chaque opérateur ne va que au PM, au point de mutualisation. Et ensuite, ce sont des réseaux qui sont mutualisés, soit par un seul opérateur, soit par la collectivité, si ce sont des réseaux d'initiative publique. Alors, 2 minutes pour citer cet exemple très intéressant en matière de gouvernance et de droit des télécoms sur les territoires. Vous savez que on a connu le GSM, c'est-à-dire la téléphonie mobile de deuxième génération. Aujourd'hui, tous les pylônes et antennes passent à la 3G, ce qui permet d'échanger des données sur des terminaux portables. C'est très intéressant, il y a un engouement très fort pour ces terminaux. Et on va passer bientôt à la 4G, ce qui a fait l'objet d'un appel d'offres lancé par le gouvernement via l'ARCEP, l'autorité de régulation. Et là aussi, il y a eu un affrontement assez important, puisque les opérateurs disaient « Attention, si vous nous imposez, conformément à la loi PENTA que j'évoquais tout à l'heure, des obligations de couverture territoriale très élevées, ça va nous coûter beaucoup d'argent, et on ne sait pas si on saura faire. En tout cas, on ne va pas acheter vos fréquences très chères. » Vous savez que les fréquences sont la propriété de l'État. Le ministère de l'Industrie se faisait un petit peu la voix des opérateurs en disant « Attention, en plus, nous devons récolter le maximum d'argent possible. Or, d'après nos projections, on ne pourra pas dépasser 2 milliards d'euros si on a des objectifs de couverture trop élevés. » Le ministère de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire et la DATAR disaient « Oui, mais vous savez, c'est quand même intéressant. » Et certes, quand les réseaux se développent, ils s'appuient sur une utilisation croissante, c'est-à-dire loi de Moore, les puces double de capacité tous les 18 mois. Loi de Nielsen, la bande passante demandait double de capacité tous les 24 mois. Mais la DATAR disait « Attention, vous avez aussi la loi de Metcalfe qui dit que un réseau a une valeur proportionnelle au nombre de ses membres. Et donc, il faut aller chercher les participants les plus éloignés du centre, les plus éloignés, parce que leur valeur est très importante. Nous avons montré à la DATAR que des gens qui sont en zone rurale vont consommer beaucoup plus sur Internet et donc représenter une valeur plus importante pour les opérateurs. C'est une des raisons pour lesquelles il fallait respecter cette volonté du Parlement d'aller couvrir le plus possible de territoire. Au total, et après une négociation assez dure devant le Conseil d'État, on a 99,6% de la population qui sera couverte, une zone rurale de 22 000 communes qui sera prioritaire et qui devra se développer en même temps, à peu près en même temps que les zones urbaines. Et puis, malgré ça, et ces impératifs, 3,6 milliards d'euros de revenus pour le budget de l'État. Donc vous voyez qu'on a pu mêler un certain nombre d'objectifs apparemment contradictoires, mais que, à la fois en raison, je dirais, de la valeur de la bande passante, de l'intérêt des opérateurs et des usagers pour ces nouvelles technologies, on a pu concilier tous ces objectifs. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'arrive au dernier paragraphe, cette logique de la péréquation. J'ai déjà anticipé en évoquant les lois de Moore, Nielsen et Metcalfe, mais globalement, au-delà de cette question de la régulation, au-delà de l'objectif que les territoires doivent atteindre d'équiper l'ensemble des habitants et des usagers, enfin pas au-delà, mais en deçà, de façon sous-jacente, on a une problématique de péréquation. Quel est le principe de la péréquation ? Il s'agit d'utiliser des recettes excédentaires réalisées en zone dense pour équiper les zones moins denses. Et pour cela, on a déjà réalisé ce genre d'opération. Et il y a eu une énorme littérature sur le déploiement du rail, de l'électricité, du téléphone, du timbre-poste, etc. Chaque fois, c'est une société nationale qui, mandatée par l'État, a pu développer des produits dans des conditions qui ont fait que chaque utilisateur, quelle que soit sa localisation géographique, avait droit au même tarif. Et c'est le fond de la péréquation que d'égaliser l'écoute et les tarifs d'accès. Alors aujourd'hui, on a un modèle différent, puisque sous l'égide de l'Europe, on fait confiance d'abord aux opérateurs pour développer leur réseau et soutenir l'initiative publique ensuite. Et les collectivités se sont plaintes en disant « Mais il y a une sorte d'écrémage des marchés les plus rentables, et nous, collectivités, nous n'avons plus suffisamment de moyens pour pouvoir équiper des territoires les plus ruraux. » On peut passer à la dernière diapo. Donc, on a la possibilité de suivre deux modèles. Soit on recrée des monopoles publics à l'échelle régionale, et effectivement, on permet à la collectivité de s'installer sur des territoires urbains où elle va directement concurrencer l'opérateur, avec probablement du contentieux qui naîtra de cette concurrence qui pourrait être jugée déloyale, et en tout cas qui peut paraître non conforme au droit européen. Soit on essaye de travailler sur le fonds d'aménagement numérique des territoires et la mise en œuvre d'un système d'approvisionnement fiscal ou de redevance ou autre qui nourrisse tous les projets publics via un canal national. Aujourd'hui, Ce sont les investissements d'avenir au travers du Fonds pour la société numérique qui servent de cadre de préfiguration à ce Fonds d'aménagement numérique des territoires. On a mobilisé 900 millions d'euros de subventions pour les premiers projets. 240 millions d'euros ont été distribués. Voilà, je crois qu'en fait j'avais mis un schéma derrière, mais ça c'est le schéma de présentation du programme national très haut débit qui montre que les initiatives privées sont soutenues avec 1 milliard de prêts du Fonds pour la société numérique, les initiatives publiques sont soutenues avec 900 millions d'euros de subventions, parce que même les collectivités n'iront pas chercher les derniers habitants des dernières vallées ou des dernières campagnes. Le satellite bénéficie de soutien à hauteur de 40 à 100 millions d'euros selon les hypothèses. Et les points d'interrogation montrent qu'il y a un travail très important à faire pour mettre d'accord les opérateurs publics et privés sur la complémentarité de leur déploiement. Donc voilà, globalement, quels sont les termes de l'évolution de la gouvernance et du droit qui la reflète sur cette question de l'aménagement numérique des territoires en perspective de leur meilleur développement. Mais ça, c'est un sujet dont je pourrais parler une autre fois, puisque aujourd'hui, la question ne sera plus « faut-il aménager ou pas aménager mon territoire ?» La réponse est claire. Il faut impérativement que tout le monde soit couvert. C'est une décision prise à l'échelon européen et national. La question, c'est dans 15 ans, qu'est-ce que chaque territoire et qu'est-ce que chaque élu sur chaque territoire aura fait de la bande passante qu'on aura mis à sa disposition? L'aura-t-il transformé en emploi, en création de valeur, en accès à la citoyenneté, en accès à la recherche d'emploi pour ceux qui n'en ont pas, etc. C'est tout le défi des services en ligne et de leur organisation. Voilà.